VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 16 décembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Les États du G5 Sahel renforcent leur coopération et appellent au soutien international contre le péril djihadiste lors d'un sommet à Niamey au Niger.
Le gouvernement gabonais et l'Union européenne achèvent leur dialogue sur la crise post-électorale de 2016, ont annoncé pendant le week-end les deux parties.
22 civils tués pendant le week-end dans une nouvelle attaque des ADF dans l'est de la République démocratique du Congo.
La COP25, qui s'est terminée hier à Madrid, a été qualifiée d'occasion ratée pour répondre à l'urgence climatique.
En Irak, assassinat d'un partisan de la contestation contre le pouvoir irakien et son parrain iranien, le quatrième en deux semaines.
Et en Iran, Amnesty International établit maintenant à au moins 304 morts le bilan de la contestation de novembre dans ce pays.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
5 chefs d'État du G5 Sahel ont décidé dimanche à Niamey de renforcer leur coopération en matière de lutte contre les groupes djihadistes. À l'issue d'un sommet extraordinaire dans la capitale nigérienne, ils ont aussi appelé la communauté internationale à les soutenir pour endiguer le terrorisme. Le point avec Idriss Fall.
Les chefs d'État réitèrent leur volonté de tout mettre en œuvre pour améliorer la coordination entre la force conjointe, les forces nationales et les forces internationales alliées, selon le communiqué final du sommet. Ils ont également lancé un appel aux autres pays de la grande région pour un renforcement de la coopération entre les services de sécurité et de renseignement dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. L'attaque mardi du camp militaire d'Inates dans l'ouest du Niger a fait au moins 71 soldats nigériens tués et a traumatisé le pays qui a décrété 3 jours de deuil national de vendredi à dimanche. D'autres attaques sanglantes ont frappé ces derniers mois le Mali et le Burkina Faso. La force militaire conjointe du G5 Sahel, lancée en 2015 et réactivée en 2017, devait compter 5000 hommes à peine jusqu'à maintenant à monter en puissance en dépit des nombreuses déclarations des chefs d'État comme celle faite hier à Niamey.
Nouveau massacre dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 22 civils ont été tués dans une attaque attribuée aux rebelles ougandais des ADF, Jean-Roger Bion.
Des rebelles ADF ont tué à la machette des civils à Ntombi, à l'ouest de Maïmoya, selon Donat Kibwana, administrateur du territoire de Beni. Les équipes sont mobilisées pour récupérer les corps afin de les enterrer dignement. Il précise qu'il y a 13 femmes parmi les victimes qui sont des agriculteurs. La veille, 6 civils avaient été tués dans une autre attaque à Beni, où l'armée a installé son état-major pour lutter contre les groupes armés, notamment les rebelles ADF accusés d'avoir massacré plusieurs centaines de civils et des milliers de personnes. Depuis le 28 novembre, le chef d'état-major des forces armées, le général d'armée Célestin Mbala, s'est installé avec son équipe à Beni. Un autre général, John Numbi, a été envoyé en renfort quelques jours après. Dans son premier discours sur l'état de la nation vendredi, le président Félix Tshisekedi, qui dès son élection s'était engagé à pacifier l'Est, a indiqué avoir changé le commandement de l'armée dans cette région et avoir relevé 11 000 soldats positionnés dans cette zone par 22 000 militaires fraîchement formés.
Le Gabon et l'Union européenne ont achevé hier leur dialogue sur le scrutin présidentiel et les violences post-électorales de 2016. C'est ce qu'ont annoncé dimanche l'ambassadrice de l'UE à Libreville, Rosario Bento Pais, et le ministre gabonais des Affaires étrangères, Alain-Claude Billy Binze. Les deux parties ont convenu de l'importance d'une réparation aux victimes en vue d'une réconciliation durable dans le cadre des plaintes qui seraient déposées, selon la diplomate européenne. Il a également été question des détentions irrégulières et des suspensions de médias par l'État gabonais.
Libye, la présidence turque a annoncé sans autre précision que le président Recep Tayyip Erdogan a reçu dimanche pour la deuxième fois en moins d'un mois le dirigeant du gouvernement d'union nationale Fayez al-Sarraj. Monsieur Erdogan avait évoqué il y a quelques jours l'envoi de troupes en Libye pour le soutenir face à l'assaut des forces rivales du maréchal Khalifa Haftar, soutenu par l'Égypte et les Émirats arabes unis, deux rivaux régionaux d'Ankara.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La conférence de l'ONU sur le climat s'est terminée dimanche à Madrid sans s'entendre sur des points essentiels et ce en raison des réticences de certains États. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, n'a pas caché sa déception. De nouveau, Jean-Roger Bion.
Je suis déçu du résultat de la COP25, a déclaré le secrétaire général de l'ONU dans un communiqué. La communauté internationale a raté une occasion importante pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, a insisté le patron de l'ONU. Cette conférence qui devait durer 2 semaines et a été prolongée de plus de 40 heures laisse un goût doux amer, d'après Teresa Ribera, ministre espagnole de l'Environnement. Le texte final appelle à des actions urgentes, mais le langage est tortueux et le résultat médiocre, a estimé Catherine Abreu de l'ONG Climate Action Network. Pour Hélène Mountford du think tank World Resources Institute, l'esprit de l'accord de Paris n'est plus qu'un lointain souvenir. Les quelques 200 signataires de l'accord de Paris doivent soumettre d'ici la COP26 une version révisée de leur plan de réduction d'émissions. Aucun des grands pays pollueurs n'a fait d'annonce significative ni donné de signes clairs sur ses intentions. Les États-Unis quittent l'accord de Paris en novembre prochain. La Chine et l'Inde n'ont rien promis. Les Britanniques qui organisent la COP26 l'an prochain ont promis de tout faire pour que Glasgow soit un succès.
En Irak, un partisan de la contestation a été assassiné à Bagdad, le 4e en 2 semaines. Le pays est en proie depuis 2 mois et demi à une révolte inédite contre le régime en place, révolte qui a fait quelque 460 morts et 25 000 blessés. La campagne d'intimidation, d'enlèvement et d'assassinat n'a pas cependant entamé la mobilisation des Irakiens contre le gouvernement et son parrain iranien. De nouveau, Idriss Fall.
Mohamed Al-Douzaïli, 24 ans, a été abattu d'une balle dans le dos non loin de la place Tahrir, épicentre de la contestation à Bagdad. Gravement blessé, il a succombé hier matin à ses blessures. Il distribuait des repas aux manifestants, tout comme Zahra Ali, 19 ans, retrouvée morte avec des marques de torture le 2 décembre. Par ailleurs, 2 militants actifs sur la place Tahrir ont été blessés dans l'explosion de leur voiture à Diwaniya, où ils étaient venus rencontrer les manifestants de cette ville du sud. La semaine dernière, un autre leader de la contestation, Ali Al-Lami, 49 ans, père de 5 enfants, a été abattu de plusieurs balles dans la tête dans un quartier populaire de Bagdad. Fahem Altaï, un père de famille de 53 ans, a été tué par 2 tireurs à moto alors qu'il rentrait chez lui à Kerbala. Un autre militant a été blessé lorsque sa voiture a pris feu, visiblement provoquée par une charge explosive placée sous le véhicule. De nouvelles manifestations ont eu lieu hier à Bagdad et dans la plupart des villes du sud où les administrations et les écoles sont toujours fermées.
Et en Iran, au moins 304 personnes ont été tuées dans la répression féroce de la contestation ayant touché le pays entre le 15 et le 18 novembre, selon un nouveau bilan publié lundi par Amnesty International. La contestation avait éclaté le 15 novembre dès l'annonce d'une forte hausse du prix de l'essence en pleine crise économique et avait touché une centaine de villes. Jusqu'à présent, les autorités n'ont confirmé que 5 décès, 4 membres des forces de l'ordre tués par des émeutiers et un civil. Selon l'ONG, les autorités ont poursuivi leur répression en arrêtant des milliers de contestataires, ainsi que des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme et des étudiants.
Ici à Washington, après 3 mois de débats tendus, la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, va se réunir, a priori mercredi, pour envoyer le président Donald Trump en procès au Sénat. Elle va se prononcer en séance plénière sur les 2 chefs d'accusation déjà approuvés vendredi en commission contre le 45e président des États-Unis dans l'affaire ukrainienne, abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Mais le camp républicain fait bloc pour ensuite lui éviter une destitution. C'est en effet le camp présidentiel qui est majoritaire au Sénat, seul chargé du procès prévu en janvier, ce qui anéantit à ce stade la probabilité d'une destitution.
L'émissaire des États-Unis pour la Corée du Nord a qualifié aujourd'hui les exigences de Pyongyang d'hostiles et de malvenues à l'approche d'un ultimatum nord-coréen. Mais Stephen Biegun, qui parlait à la presse à Séoul, a laissé la porte ouverte à de nouvelles négociations. La Corée du Nord a déclaré que si Washington ne lui faisait pas d'offre acceptable, elle adopterait une nouvelle approche, jusque-là non précisée. Ce mois-ci, elle a procédé à différents tests, notamment de missiles balistiques, selon Tokyo et d'autres. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Irénée Herman Oumbo.
En Côte d'Ivoire, le montant des marchés publics attribués aux PME est passé de 15,6% à 46,6% en un an, soit une hausse de 31% en glissement annuel. L'annonce a été faite par le gouvernement ivoirien à l'issue de son dernier conseil des ministres. Nouvel élan de développement au Sénégal, le pays s'est doté d'une centrale flottante génératrice d'énergie à base de GNL, couvrant près d'un sixième de ses besoins. L'ouvrage est un composant du projet d'exploitation pétrolière Grand Tortue Ameim et marque une nouvelle étape dans son plan de développement d'un mix énergétique. Au Congo, le FMI dit avoir reporté au premier trimestre 2020 le versement de 44,7 millions de dollars représentant la deuxième tranche d'un prêt. L'institution demande à Brazzaville de faire plus d'efforts dans la lutte contre la corruption et le règlement de ses dettes. La Banque mondiale a reçu des promesses de renflouement record de 82 milliards de dollars sur les trois prochaines années, dont 53 milliards pour l'Afrique, soit 7 milliards de plus que sur la période 2017-2020. Il s'agit du plus grand renflouement de l'histoire de l'Association internationale du développement, indique le président de la banque, David Malpass.
Les sports à présent avec Élisée Ungpatin. Et bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football, la FIFA a donné la date du tirage au sort du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 pour la zone Afrique.
Oui, la cérémonie aura lieu au Caire le 21 janvier prochain. Les 14 sélections qualifiées à l'issue du premier tour rejoindront 26 autres équipes pour former 10 groupes de 4. Les matchs auront lieu à partir du mois de mars 2020 jusqu'à novembre 2021. Par la suite, les 10 premiers seront qualifiés au troisième et dernier tour. Les sélections s'affronteront en match aller et retour. Les qualifiés iront à la Coupe du Monde en 2022 au Qatar.
L'Ouganda et la Coupe de la CECAFA, on connaît l'affiche des demi-finales.
Le pays hôte, l'Ouganda, croisera la Tanzanie et le Kenya affrontera l'Érythrée. La dernière journée des matchs de poule disputée hier a vu l'Ouganda briser le rêve de Djibouti battu 4-1 pendant que l'Érythrée et la Somalie se quittaient sur un nul blanc 0-0.
En RDC, on a eu droit au vieux classico entre le TP Mazembe et le dernier club Motema Pembe.
Et c'est le club de Lubumbashi qui s'impose sur la marque de 2-0 grâce à Patou Kabangu et Rangford Calabar. Une victoire qui conforte les Corbeaux en tête du classement avec 35 points. Les Immaculés, de leur côté, restent 4e avec 25 points. 11e journée en Côte d'Ivoire et l'Africa Sport s'offre le classico devant la SEC Mimosa. Score 1-0, but d'Ousmane Diallo sur penalty. Les Aiglons prennent du coup la 4e place avec 17 points à une unité des Mimos classé 3e. Afad Djekanou, vainqueur du Sol FC 1-0, garde la première place avec 23 points.
Élisée, on joue la deuxième journée au Bénin.
Oui, et Aema consolide sa première place en allant corriger la jeunesse sportive de Poubet 3-0. Le club d'Adjara totalise 17 points au classement devant les Buffles du Borgou et les Dragons de l'OME, respectivement victorieux 3-0 de Real Sport et 1-0 devant UPONM. Notons la bonne opération de l'Estonais de Boycon qui est allé battre 1-0 énergie de la SB2E. De même pour Dynamo Parakou à Kraké et puis 0-0 à Djougou entre Panthèse et Béké FC de Bemereke dans le derby du Septentrion. Enfin, au Burkina Faso, c'est l'ex-sponsor de Bobo Dioulasso, l'âge vainqueur du Raimo FC par 4-1 qui boucle la phase aller du championnat en situation de champion de la mi-saison devant Salitas.
Basketball à présent, Coupe d'Afrique des clubs champions, les Mozambicaines de Ferro Viaro s'adjugent le trophée.
Tenant du titre, le club de Maputo s'est imposé 91-90 devant Interclobé d'Angola après prolongation. Et puis la NBA pour finir, avec vous Idrissa, les résultats de la nuit.
Orlando et la Nouvelle-Orléans 130-119, Indiana et Charlotte 107-85, LA Lakers et Atlanta 101-96, Brooklyn et Philadelphie 109-89, Denver et New York 111-105, Sacramento et Golden State 100-79.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Face à la recrudescence des attaques terroristes dans le Sahel, un sommet extraordinaire a réuni dimanche à Niamey au Niger les chefs d'État du G5 Sahel, le président nigérien et ses homologues du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie et du Tchad ont réitéré leur volonté d'améliorer la coordination entre la force conjointe, les forces de défense et de sécurité nationale et les forces internationales alliées. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Le principal sujet sur lequel les conclusions de ce sommet de Niamey étaient attendues, à savoir la réunion de clarification à laquelle le président français a invité les 5 chefs d'État du G5 Sahel, n'a fait l'objet d'aucune référence claire dans le communiqué final lu par le secrétaire permanent du G5 Sahel, Maman Sambo Sidikou.
Les chefs d'État ont réaffirmé leur détermination à consentir plus d'efforts dans la mobilisation des ressources internes pour faire face au terrorisme sous toutes ses formes. Les chefs d'État ont réitéré leur volonté de tout mettre en œuvre pour améliorer la coordination entre la force conjointe, les forces de défense et sécurité nationale et les forces internationales alliées. Au regard des nombreuses attaques enregistrées dans la zone des trois frontières, Burkina, Mali, Niger, les chefs d'État décident de mobiliser davantage de forces dans le fuseau centre, particulièrement affecté par l'action des groupes armés terroristes. Ils décident de mettre un accent particulier sur la lutte contre le trafic d'armes et de drogue, principale source de financement du terrorisme au Sahel.
Répondant aux questions des journalistes, le président en exercice du G5 Sahel, le Burkinabé Roch Marc Christian Kabore, a évoqué la question des alliances que les pays membres du G5 Sahel ont avec les pays occidentaux, la France notamment. Pour lui, les critiques contre la présence des alliés au Sahel sont justifiées au vu des résultats maigres dans la lutte contre le terrorisme sur le terrain.
La France n'est pas le seul allié dans le combat et dans la lutte contre le terrorisme dans notre sous-région. C'est pour cela que nous voulons dire qu'il nous faut ensemble coordonner les actions militaires entre le G5, la MINUSMA, et les forces alliées qui travaillent avec nous sur le terrain de manière à remporter des victoires. Lorsque vous êtes en alliance ou vous travaillez sur le terrain et que finalement c'est le terrorisme qui gagne le terrain, cela amène également un découragement qui est normal au niveau des populations. Il faut que nous nous réorganisions et que nous voyons comment nous allons assurer une lutte efficace, une lutte sans merci, une lutte qui amène des résultats, une lutte qui nous permet de détruire les bases du terrorisme, afin de sécuriser nos populations.
Le président nigérien Issoufou Mahamadou, hôte du sommet, a lui, un peu plus tôt dans la matinée à l'ouverture, indiqué que ceux qui s'attaquent aux alliés dans la lutte contre le terrorisme et qui veulent défaire ces alliances font pire que ceux qui attaquent les troupes des pays du G5 Sahel, à savoir les terroristes. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a lancé ce samedi le dialogue national inclusif, une initiative visant à trouver une solution à la crise sécuritaire et humanitaire que traverse le pays. Les débats vont durer jusqu'au 22 décembre, mais plusieurs organisations civiles et partis d'opposition ont refusé de prendre part à ce dialogue qui doit, dit-on, définir une nouvelle feuille de route. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Les 10 jours de débat constituent la phase ultime d'un dialogue lancé depuis plusieurs mois à travers des concertations locales dans 605 communes, 10 régions, 57 cercles et dans les 6 communes du district de Bamako. Les ambassades et consulats du Mali à travers le monde ont aussi servi de cadre à ces concertations. Plus de 30 000 résolutions ont été prises lors de ces rencontres décentralisées. Les objectifs de ces débats qui ont démarré ce week-end sont donc clairs. Un diagnostic sans complaisance et surtout proposer des solutions pour sortir définitivement de la crise. Cheikh Sidi Diarra, président du comité d'organisation du dialogue national inclusif.
C'est une chance inégalée que le peuple accepte de s'exprimer sur nos préoccupations majeures de l'heure et d'offrir des pistes de solutions dans la courtoisie la plus absolue et dans le respect de l'état de droit. C'est tout à l'honneur de nos concitoyens. C'est l'illustration de la maturité de notre nation.
Après avoir remercié les organisateurs, le président Ibeka a planté le décor du dialogue national en sa manière.
Il s'agira pour vous d'ausculter le pays pour voir quel est son mal, d'où nous vient-il et comment le soigner. Vous êtes une force de proposition et le pays attendra de vous que votre rencontre ne soit pas une réunion de plus.
Dans la salle Bazoumana Sissoko du palais de la culture, les 3000 places n'ont pas suffi aux participants à cette cérémonie d'ouverture. Certains nous ont livré leurs impressions.
Franchement, aujourd'hui, on a des grands problèmes au nord et au centre. Ces problèmes ne peuvent avoir de solution que dans le dialogue.
C'est la population lambda qui est en train de prononcer vraiment leurs idées par rapport à même à la vie de la nation, vraiment, pour pouvoir trouver des solutions vraiment qui préoccupent aujourd'hui l'État malien.
Et pour que les gens puissent apporter leurs contributions et faire des propositions. Et à la lumière de ça, on va essayer de tirer, de faire des synthèses.
Pour le président Ibeka, la crise que traverse le Mali depuis 10 ans a laissé des séquelles qu'il faut soigner.
Mais il est désormais incontestable que de nouvelles légitimités se font jour, qui gagnent le cœur des populations. Avec un nouveau système de justice, même si cela s'appelle charia, d'administration et d'enseignement, l'État, tel qu'il est questionné, est ébranlé dans ses fondements. Car dans nos villages, nos communes, aux yeux de nos populations, plus rien ne peut être comme avant, qu'on se le tienne pour dire.
On écoute les réactions de quelques femmes venues prendre part à la rencontre.
Le lancement quand même s'est bien passé. On a vu que vraiment le président de la République était de cœur avec nous ainsi que tout le monde.
Nos femmes, ils ont besoin de notre aide. On doit les soutenir également. Ils ont besoin de notre appui. Les femmes comptent beaucoup pour cette démarche-là.
Nous sommes là pour la formalité. Parce que ce dialogue, je dirais que ne va rien changer au problème du Mali. Il faut que les Maliens changent. Si les Maliens changent, tout va changer. Mais avec ces mots, ces rencontres, ces belles paroles, je pense que nous ne vont rien servir.
Cette rencontre va se dérouler sans la participation de plusieurs acteurs politiques et syndicaux qui estiment que ce dialogue est faussé. C'est le cas du chef de file de l'opposition, Soumaila Cissé, qui a estimé jeudi que ce dialogue était de la pure communication politique et une mise en scène. Mais les groupes armés signataires de l'accord d'Alger prennent part aux travaux. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, réaction de l'opposition après le tout premier discours du président Félix Tshisekedi sur l'état de la nation devant le Congrès. Pour la coalition Lamuka, le chef de l'État congolais a plutôt fait une allocution d'entrée en fonction avec de nombreuses promesses alors qu'il a déjà passé près d'un an au pouvoir. Eddy Issango a joint le président actuel de Lamuka, Adolphe Muzito, son compte-rendu.
Tshisekedi a plutôt parlé comme premier ministre chef du gouvernement, alors que le Congo a un régime parlementaire. Un tel programme devait être plutôt développé par le premier ministre. Il est entré dans les détails et il est même entré dans les compétences gouvernementales jusqu'à donner des instructions au ministre pendant qu'il exposait.
À ces mots, le nouveau président de la coalition qui avait porté Martin Fayulu à la présidentielle du 30 décembre 2018 estime que les discours du président Tshisekedi a plus l'air de celui d'une campagne électorale. Il devait plutôt être question d'un état des lieux pour Adolphe Muzito.
Au lieu de faire l'état des lieux, il a présenté plutôt un programme comme s'il venait d'arriver et qu'il était en campagne pour se faire élire. faire un état des lieux signifie qu'il allait dire « Moi, j'ai été élu sur base de tel programme, j'ai promis ceci. Près d'un an après de mon mandat, voilà ce que j'ai réalisé. Quelles sont les performances, quelles sont les difficultés et comment il compte améliorer dans les mois ou années qui viennent. » Donc, il est resté sur des promesses, etc., farfelues, qu'il ne pourra pas réaliser. Il a mis l'accent sur un programme de 100 jours, dont il a dit qu'il était exécuté par les services de la présidence. Or, les services de la présidence ainsi que le président lui-même n'ont pas compétence de gérer le pays. Et il insiste beaucoup sur son programme, dont il dit qu'il est exécuté 70% en termes de décaissement financier, mais on ne voit pas sur le terrain une exécution physique. En tout cas, en termes d'exécution physique, ça ne correspond pas aux 70% d'argent qui ont été décaissés. D'où les problèmes de la pertinence de son programme et de la bonne gouvernance.
Le président de la Mouka est plutôt d'avis que les côtés sociaux de la population n'a pas été assez évoqué et que la réalité, selon lui, est que l'insécurité s'est accrue dans le pays.
En fait, en dehors du problème social et économique qui s'est en train de s'amplifier avec la hausse du taux du dollar, il y a l'insécurité à l'est, il y a des tueries. Les populations locales sont en train d'être dépeuplées par des forces étrangères venant des pays voisins. On dépeuple notre population pour les remplacer par des populations étrangères. Nous ne sentons pas les programmes concrets et les moyens qu'il met à la disposition de notre armée pour que l'armée puisse se mettre fin à cette situation de guerre qui ne fait que s'aggraver.
Dans son discours sur l'état de la nation, le président Félix Tshisekedi a parlé de la construction des routes dans des provinces et des gros ouvrages comme des sautes-moutons du Juto Total à Kinshasa, dont les travaux sont encore à l'état d'exécution. Il a plaidé pour les décaissements rapides des moyens afin de permettre la fin des travaux. « Je ne saurais pas attendre indéfiniment car j'ai un bilan à présenter », a déclaré le président Tshisekedi.
C'était en compte rendu d'Eddie Sango, en compte rendu de son entretien avec le président de la coalition Lamouka en RDC, Adolphe Mouzito.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Tchad, les évêques appellent les autorités au respect de la constitution et de la séparation des pouvoirs afin de préserver, disent-ils, la paix et la cohésion sociale. Cette mise en garde a été lancée à l'occasion de la publication de leur traditionnel message de Noël le week-end dernier. Notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjingar, fait le point.
Dans ce message intitulé « Le Tchad que nous voulons », le prélat tchadien attire l'attention des gouvernants sur les violations graves des textes internationaux relatifs au respect des droits humains. Le message révèle également que nombre des textes internationaux ratifiés par le Tchad et même certaines lois importantes n'ont pas eu de décret d'application, ce qui, selon les évêques du Tchad, laisse libre cours à l'arbitraire, à l'exploitation et l'immixtion du pouvoir dans les affaires judiciaires avec une vague d'arrestations de personnalités politiques. Monseigneur Joachim Kouraleyo en veut pour preuve.
L'ordonnance 06 portant sur la santé de reproduction au Tchad n'a pas vu son décret d'application. La charte africaine de la jeunesse qui n'a pas été traduite dans la politique nationale de la jeunesse. La convention sur l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes ratifiée depuis 20 ans sans être incorporée dans le droit national. En voilà quelques exemples. Et cette émission de l'exécutif, la réponse a même été donnée d'une certaine manière par le serment confessionnel.
C'est peut-être trop demandé aux gens de prendre un tel engagement. Mais ma conviction à moi, un serment professionnel n'a pas sa place dans un pays qui se dit laïque.
Des allégations qui ne sont pas justes, réplique le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Dime Arabi.
A priori, je pense que c'est des hommes de Dieu. Ils ont leur point de vue sans respect à cette affaire. Mais moi, je pense pas qu'il y ait une ingérence de l'exécutif dans les affaires judiciaires comme ils le pensent. Parce que plus de deux ans que je suis au ministère de la Justice, j'ai jamais réussi de orientation de l'exécutif pour demander aux juges de prendre des décisions dans tel ou tel moment.
Une journée de prière nationale a été instituée depuis 2010 où toutes les trois confessions religieuses se rencontrent une fois par an pour prier pour la paix.
Sur beaucoup d'aspects, même si nous cherchons ensemble la paix, il y a une quête exclusion de la paix.
Abbé Yves Alangomi Giralbaï est le secrétaire général de la conférence épiscopale du Tchad.
Comment nous cherchons cette paix-là? Le Tchad n'est n'est pas seulement pour les plus forts, le Tchad n'est pas seulement pour les faibles. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire porter très loin leur voix. Quelle est leur place dans cette quête de la paix? Il y a une quête qui cherche dans l'élimination au maximum des personnes qui ne pensent pas comme moi, qui ont d'autres avis à donner. Et ça, ce n'est pas une quête de la paix.
Contacté par VOA Afrique au sujet de la politique du régime actuel en faveur de la paix, les responsables du parti au pouvoir n'ont pas souhaité réagir. André Kodnuma Djingar Ndjamena pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.